Bonsoir et bienvenue dans À votre avis, votre émission quotidienne de débat sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique. En 2020, l'État camerounais a perdu 16 milliards de francs CFA à cause de la corruption et le secteur routier est le plus touché. La Côte d'Ivoire vient de lancer une vaste opération contre ce fléau. Au Sénégal, au Mali, au Niger et en Guinée, le racket des policiers est un mal quotidien. Au Burkina Faso, des milliers de litres de carburant de contrebande ont été saisis et 72 personnes interpellées. Alors, quelle est la situation dans votre pays? Avez-vous été témoin ou victime de corruption? Comment lutter contre ce fléau? Si vous souhaitez participer à cette émission en direct, appelez-nous tout de suite au 001 202 205 26 33, le plus 1 202 205 26 33. Vous nous laissez vos coordonnées et bien sûr, on vous rappelle. Alors, vous êtes très nombreux à nous avoir laissé vos réactions, vos commentaires, vos témoignages sur la page Facebook de VOA Afrique. Je vais en lire quelques-uns pour commencer cette émission. Nous avons Emma Lefac de Douala. La corruption a gâché ma vie dans les entreprises de placement du personnel maritime. Il est marin de formation. Pour avoir un poste en tant que nouveau, il faut un faux CV. Lui dit ces choses que je refuse et que je continuerai de refuser et corrompre les ressources humaines et parfois une chaîne de personnes pour décrocher un poste. Dans une entreprise, raconte-t-il, les ressources humaines m'ont dit sans mâcher leurs mots que si je ne le faisais pas, je n'aurais jamais ce travail. En 2018, finalement, il décroche un CDI, mais très vite, il perd ce contrat 2 semaines après parce que son sous-chef voulait que je le sous-doie. Une fois de plus, j'ai refusé. Alors, j'ai eu un mauvais rapport et mon contrat a été perdu. Emma Lefa continue. Je souffre, c'est vrai. Je suis sans emploi, c'est vrai. Mais la corruption ne passera pas par moi. En bref, ne soyons ni corrupteurs ni corrompus et ce phénomène de corruption disparaîtra. Alors, nous avons beaucoup d'auditeurs qui également ont souhaité participer à cette émission de vive voix. Nous avons Tim Mabosso depuis Kinshasa. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, la ligne... Essayez de vous mettre un petit peu à l'abri, monsieur Mabosso, qu'on n'ait pas trop de bruit environnant. Pour vous, vous dites en RDC, c'est un fléau au même titre que les pandémies, dites-vous. Vous dites la RDC vit et baigne dans la corruption. Alors, dites-moi, de quoi avez-vous été témoin et avez-vous été victime?
En fait, c'était dans les années, disons, 2018. J'étais encore au sein d'une entreprise. Et j'avais jugé bon de quitter cette entreprise-là pour de multiples raisons. Et j'ai postulé dans une autre entreprise qui, malheureusement, le procédure de recrutement n'était pas honnête. Et la correction était au rendez-vous. Donc, la personne qui était chargée de recrutement avait passé un petit message dans les coulisses en disant « Celui qui veut obtenir ce poste doit miser plus parce que c'est ça la loi, disons. C'est ça le principe, selon lui, dans le système. » Et donc, compte tenu de mes qualités, de mon expérience, j'étais parmi les personnes à qui je pouvais être.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Mabosso. Donc, vous êtes à Kinshasa. Direction la Guinée, maintenant, à Conakry. Nous avons Mohamed Kourouma qui est avec nous.
Oui, bien sûr, madame.
Oui, bonsoir. Alors, pour vous, pour vous, c'est très difficile de combattre la corruption. Pourquoi?
C'est très difficile en Afrique et surtout en Guinée de combattre la corruption parce que la corruption devient un mot qui presque nous entoure. Disons un mal qui nous entoure, je m'excuse, à partir du moment où nous constatons non seulement la corruption dans les rues, dans les écoles, mais aussi en principe dans les administrations. Et il faut le reconnaître que la corruption évolue dans nos États à un sens dichotomique. C'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte le corrupteur et également le corrompu. Il arrive que les agents peuvent être, en tout cas à l'amont, ceux-là qui entraînent ce phénomène-là, poussant par exemple certains à se faire passer, comment je vais dire ça, par le statut de d'autres. Vous avez vu tout récemment à travers nos médias où on voyait que même dans l'administration, il y a en tout cas des vendeuses qui n'ont rien appris dans les universités, qui peuvent se retrouver dans l'administration. Et on peut également observer que la corruption a atteint un niveau de paroxysme jusqu'à un certain moment où, même dans les établissements, la corruption a fini par tuer l'apprentissage. C'est-à-dire que les enfants n'ayant pas de niveau, n'ayant pas de diplôme, peuvent se retrouver dans des classes supérieures. Et si la corruption déjà tue l'apprentissage, et on sait que la jeunesse d'aujourd'hui
est l'avenir des demain. Plus précisément pour les écoles, Monsieur Kourouma, quand vous parlez des écoles, ça veut dire que si les parents ne donnent pas d'argent ou un cadeau au professeur, les enfants ne... On délaisse les enfants ou ils ne passent pas dans la classe supérieure, c'est ce que vous dites ?
Dans les écoles publiques, par exemple, je vous explique. C'est-à-dire quand un enfant n'a pas, par exemple, le niveau, il arrive qu'il passe par son professeur à avoir une note pour passer dans les classes supérieures. Ça, c'est un aspect. Il y a également des enseignants qui se trouvent dans des conditions macabres, difficiles, qui proposent, n'est-ce pas, de l'argent, en tout cas, aux enfants pour se retrouver dans les classes supérieures. Et le phénomène même tend à s'aggraver jusqu'à ce que nous sommes à un moment où la corruption devient un moyen pour certains enseignants à profiter même des jeunes filles pour les faire passer dans les classes supérieures. Ça se passe même dans les universités, dans les lycées. Voilà. Donc c'est l'aspect de l'école. Quand vous partez dans l'administration, il y a bel et bien des réseaux dans nos États où il faut passer pour eux. C'est faire, par exemple,
pour se faire embaucher, là aussi, il y a de la corruption. Merci beaucoup, Monsieur Kourouma. Vous écoutez donc VOA Afrique depuis Conakry, en Guinée. Nous sommes au Mali à présent avec Boubacar Diallo. Bonsoir, Monsieur Diallo.
Oui, bonsoir, madame.
Alors, pour vous, le racket... puisque vous parlez pas de corruption, vous avez employé le mot racket. Pour vous, c'est les policiers maliens qui sont les plus en cause.
Oui, vraiment, au Mali, ici, ça va pas du tout. La police est vraiment devenue une plaie dans la circulation. Qui croit que la police devrait être là pour organiser la circulation et veiller au bon fonctionnement des usagers? Mais ici, au Mali, on a l'impression que la police est là pour se remplir seulement la poche. On a des véhicules qui sont là, qui roulent sans pas, sans frein, qui causent des accidents à longueur de journée et qui sont là à payer les policiers et ils ferment les yeux sur ça. Surtout, il y a des véhicules ici qu'on appelle les sotramas. Ces sotramas-là font des surcharges à longueur de journée. Ils passent devant les policiers et ils font des accidents. Ils s'égarent n'importe comment. Ils prennent des clients n'importe comment. Pas de respect d'arrêt de transport collectif ni rien. Les policiers sont là et à un certain moment donné, l'État avait instauré, c'est-à-dire des tickets de paiement. Une fois que vous faites une faute dans la circulation, vous devrez payer en fonction de ça, on vous remet le ticket. Les policiers ont fait de telle sorte que si les tickets coûtent 3 000, vous devrez payer moins que ça pour que vous n'ayez pas, ils n'ont pas à vous remettre les tickets aussi. Vous voyez comment est-ce que ça se passe?
Merci beaucoup, Boubacar Diallo. Donc, vous êtes au Mali. Nous sommes à présent au Cameroun avec Dieudonné Désiré Biko. Bonjour, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Bonsoir, vous êtes à Douala, n'est-ce pas?
Je suis à Douala, naturellement.
Parfait. Alors, racontez-nous un petit peu la corruption chez vous. Vous avez probablement entendu les témoignages de nos auditeurs précédents. Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus dramatique en matière de corruption chez vous ?
Je regrette parce que je ne saurais aborder la question sur ce temps dans la mesure où je suis sur un média à capitaux publics américains et j'aimerais dire que le phénomène de corruption n'est pas propre à la. Bien au contraire, on a l'impression qu'en réalité, on amplifie le phénomène pour le faire, pour le coller à l'Afrique, alors qu'en réalité.
Ah non, c'est pas du tout, c'est pas du tout notre point. Monsieur Dieudonné, c'est pas du tout notre point, attention. C'est juste que notre émission est diffusée sur le continent, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, et effectivement que chaque auditeur qui habite dans un pays parle de la situation dans son pays. Mais à aucun moment, la corruption existe dans tous les pays du monde, hein.
Bon, je dois dire qu'en réalité, le phénomène décrié, nous l'entendons. Du moins, c'est dans le cas de mon pays, c'est plutôt les rapports de Amnesty International, du moins de certaines ONG. Une Allemande, par exemple, qui a hissé le Cameroun dans un classement qui ne l'honore pas. Qui a amplifié le phénomène au point où on en parle aujourd'hui. Mais seulement nous disons que.
Mais vous alors, est-ce que vous avez été témoin? Est-ce que vous avez été témoin? Est-ce que vous avez été victime de corruption chez vous à Douala?
Non, je n'ai jamais été victime. Je n'ai jamais été témoin. Je n'ai jamais été acteur. Je n'ai jamais été tenté d'être corrompu, quoi.
Même sur les routes, comme le racontait notre auditeur malien, même sur les routes, les policiers ne demandent pas un petit peu d'argent de temps en temps.
À ma connaissance, je n'ai jamais fait l'expérience.
C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Dieudonné Désiré. Oui, vous êtes... allez-y, il y a d'autres auditeurs qui attendent. Il faut faire très très vite, Monsieur Bico, maintenant.
Oui, je sais juste de vous dire qu'il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises par les autorités pour contrer le phénomène au cas où il existerait. Si bien qu'on a multiplié les structures pour lutter contre la corruption, la Commission nationale anticorruption...
D'accord.
Le
gouvernement, voilà. Donc vous n'avez jamais assisté à une corruption et vous trouvez que les autorités ont mis en place donc des sanctions pour contrer cette corruption. Merci beaucoup. Maintenant, depuis le Niger, nous avons Moutari Maman Abdourahmane. Bonsoir.
Oui, bonsoir, madame.
Alors, pour vous, vous avez vu, au Cameroun, on avait un auditeur qui était, lui, content. Mais vous, pour vous, au Niger, la corruption, c'est le plus grand fléau qui handicape le développement du pays. Racontez-nous comment ça se passe.
Oui, justement, madame, le Niger, à l'instar de beaucoup de pays africains et ailleurs, la corruption reste vraiment un fléau qui handicape le développement du pays. Malheureusement, comme je l'ai souligné, cette corruption, elle est vraiment presque dans tous les domaines, que ce soit la santé, l'éducation et la sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir, tout récemment au Niger, il y a eu un événement qu'on appelle l'affaire du ministère de la Défense, où on a démasqué une affaire de corruption sur l'achat des armes destinées aux militaires pour lutter contre la sécurité. Ce rapport est transmis et aujourd'hui public, qui démontre une fois de plus la réalité de la corruption dans notre pays.
D'accord. Et pour vous, c'est tous les secteurs qui sont touchés, l'administration, l'éducation, la santé.
Oui, l'administration, aujourd'hui, quand vous partez aujourd'hui à Niamey, aujourd'hui pour chercher des papiers, vous n'êtes pas sans savoir que pour un petit papier dans une administration, si jamais vous ne glissez pas de l'argent quelque part, je ne dis pas tous les services administratifs, mais là, beaucoup, et ceux qui nous écoutent en ce moment peuvent en témoigner, si vous ne glissez pas de l'argent sur ces papiers, on risque de vous dire que l'air va l'emporter. Et malheureusement, c'est la réalité qui se passe au Niger.
En éducation aussi, c'est la même chose.
Aujourd'hui, vous voyez le phénomène de corruption et là où il est venu. Très malheureusement, dans un secteur qui est la base de la nation, l'éducation. Et que ce soit au niveau préscolaire, au niveau primaire ou au niveau universitaire.
Et alors, pour lutter contre la corruption, qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Pour lutter contre la corruption, d'abord, il y a un engagement. Les autorités qui sont en charge de diriger le pays, ils ont pris des engagements face au peuple qui les a élus. Et je pense qu'au Niger, tous les programmes pratiquement des présidents qui sont candidats aux élections mettent la lutte contre la corruption au devant de leur programme. Et généralement, c'est à la base de ces programmes que les Nigériens les élisent. Si vous rappelez, le président Mahamadou Issoufou, quand il est venu au pouvoir, c'est principalement lutte contre la corruption que les Niger l'ont eu. Le président Bazoum, aujourd'hui, qui est le président de la République, la première attente des Nigériens pour lui, c'est la lutte contre la corruption. Donc vraiment, les responsables au plus haut sommet de l'État doivent s'engager à lutter implacablement contre la corruption. Et aussi, les citoyens que nous sommes, qui voyant chaque jour les conséquences de la corruption, doivent s'engager dans une position où qu'ils ne soient pas des corrupteurs, qui ne tentent pas. Parce que la corruption existe, c'est parce qu'il y a deux entités. Il y a le corrupteur et il y a le corrompu. Si au niveau des citoyens, les personnes refusent la corruption, ça va diminuer et ça va amener les responsables à tous les niveaux de prendre conscience et de dénoncer certaines pratiques. Malheureusement, quand on ne voit pas le sens, n'est-ce pas, de refuser d'avoir de tenter le premier la corruption, on ne peut pas dénoncer. Mais quand on tente de corrompre, chaque fois quand on vient pour un service demandé, malheureusement.
Merci beaucoup, Moutari Mouaman. Vous écoutez VOA Afrique depuis Agadez, depuis le Niger.
À votre avis sur VOA Afrique. Afrique.
Vous êtes bien à l'écoute d'Ava, votre avis sur VOA Afrique. Aujourd'hui, nous parlons de corruption. En 2020, l'État camerounais a perdu 16 milliards de francs CFA à cause de la corruption. C'est le secteur routier qui est le plus touché, d'après ce rapport. La Côte d'Ivoire vient de lancer une vaste opération contre ce fléau. Au Sénégal, au Mali, au Niger et en Guinée, le racket des policiers est un mal quotidien. Alors, quelle est la situation dans votre pays? Avez-vous été témoin ou victime de corruption? Comment lutter contre ce fléau? Si vous souhaitez participer, appelez-nous tout de suite pour en débattre en direct. Vous nous laissez vos coordonnées au 001 ou au +1 202 205 26 33 et on vous rappelle. Alors, depuis le Sénégal, nous avons Mamadou Ouribari.
Oui, bonsoir. La BOA, bonsoir aux auditeurs.
Alors, j'espère que la ligne va être assez claire. Vous nous avez écrit « Seule la justice peut nous aider à lutter efficacement contre ce fléau qui gangrène les États africains ». Racontez-nous comment et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place.
Absolument, absolument. Merci beaucoup. Une fois encore, je dis bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de la VOA. En fait, la justice, j'accuse la justice. C'est-à-dire, si la justice ne fait pas exactement leur travail, c'est ce qui occasionne le plus souvent la corruption dans les États africains. Je m'explique. Aujourd'hui, si quelqu'un essaie de me corrompre, et s'il parvient à me corrompre, c'est parce qu'il va estimer que lui, même s'il me corrompt, il n'y a pas où je vais aller me plaindre. Là où je dois aller me plaindre, si je vais là-bas, les gens ne vont pas m'écouter. Ce qu'ils vont écouter, c'est quoi? Le type essaie de me corrompre parce qu'il va me corrompre avec l'argent. Donc, il va venir auprès de la justice, il va donner. En tout cas, aux gens de la justice, il va leur donner beaucoup d'argent pour que l'affaire se trouve. Donc voilà pourquoi je dis il faut que la justice s'implique à tous les niveaux pour que nous puissions vaincre la corruption. Parce qu'une fois que quelqu'un est coupable de la corruption et que la punition, sanction qu'il faut pour lui, soit infligée, et si ça se produit comme ça dans tous les États, je pense que tout de suite on va stopper cette corruption. Mais si on essaie souvent d'assister, d'aider les gens qui essaient de corrompre avec la complicité de la justice, bon, nous n'allons pas finir avec cette corruption. Voilà ce que je pense par rapport à ça.
Merci beaucoup, Mamadou Ribari. Vous êtes à Dakar, au Sénégal. Retour en RDC, mais cette fois à Lubumbashi. Nous avons Freddy Zokenge avec nous. Bonsoir.
Bonsoir, VOA, et bonsoir à tous les auditeurs.
Bonsoir. Alors, pour vous, vous n'y allez pas que par quatre chemins et vous écrivez, vous nous dites « La corruption dans mon pays est devenue cancérigène ». C'est-à-dire, c'est arrivé à un tel point que le pays pourrait quasiment en mourir ou en tout cas être très malade de ce fléau.
Évidemment, je n'ai pas choisi les termes au hasard. Dans mon pays, en tout cas, la corruption est devenue cancérigène. Dans ce que j'ai écrit il y a deux semaines, j'ai été victime de ça. Imaginez-vous que même à la morgue, pour que le corps soit levé, il faut corrompre. Dans une morgue de Lubumbashi, je ne vais pas citer le nom de la clinique, mais une grande morgue de Lubumbashi, pour que le corps soit levé de la morgue, il fallait corrompre. Et parce que nous n'avons pas corrompu, on a traîné à la morgue de 9h à 16h parce qu'on n'avait pas ajouté l'argent de la corruption. Donc c'est devenu vraiment un fléau que, peut-être avec la volonté du pouvoir en place, il y a quelque chose qui est en train d'être fait, mais ça va prendre énormément de temps pour que la situation soit renversée parce que la corruption a atteint un degré, je dirais, jamais vu au monde, je ne sais pas, mais ça a un degré vraiment anormal.
Dans quel autre secteur vous avez été victime ou vous l'avez constaté?
Dans tous les secteurs. Moi, par exemple, il y a 4 ans, j'étais dans la ville de Kananga, au centre du pays. Il fallait que je vienne à Lubumbashi. J'étais à la SNCC pour payer le billet, pour avoir le billet du train. Mais vous avez l'argent qu'on a demandé pour le billet, mais on ne vous vend pas ce billet-là. Il faudrait ajouter l'argent de la corruption. Actuellement, pour les tests PCR, les tests COVID, si vous voulez avoir les résultats rapides dans les 24 heures, il faut corrompre pour juste avoir un test PCR. Dans les aéroports, pour les formalités d'usage, il faut corrompre. C'est dans tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur qui est épargné.
Merci beaucoup de ce témoignage très précis. Freddy Zokenge, vous êtes à Lubumbashi en RDC. Direction le Bénin à présent avec Oscar Djossou. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Alors, vous avez sûrement entendu les autres témoignages, mais alors vous, ben, enfin un témoignage positif. Vous dites au Bénin, même si vous essayez de donner de l'argent à un policier, il refuse. Pour quelle raison?
Oui, parce que depuis l'avènement du nouveau gouvernement, et le président Talon a mis sur pied une structure, ce qui est chargé de punir, de sanctionner les acteurs de corruption. Et tenez-vous tranquille, madame, depuis son arrivée au pouvoir, depuis 2016, le premier acte, c'est-à-dire le secteur qu'il a, il sait que s'il attaque ce secteur-là, il va aller au bout de son objectif, c'est le secteur de cohabiller.
Donc là, en fait, les policiers sont surveillés, ils ont peur d'être...
Je prends un exemple, lorsque vous parcourez peut-être un service, et que vous cherchez à corrompre peut-être un pour de service donné, je vous en prie, madame, peut-être une seule. Il va être une seule personne qui a accepté sur les 5. Avec le risque, hein. Avec le risque aujourd'hui. Donc, vraiment, ce secteur qui a été touché, en fait, la lutte contre la corruption est en train de prendre d'ampleur. Vous savez très bien, la corruption fait partie des fléaux, fait partie des facteurs qui entraînent le sous-développement de nos milieux. Et c'est d'abord une plaie. Et lorsqu'on n'arrive pas à pitcher, ça risque d'entraîner une gangrène. Vous savez très bien que la gangrène, donc, si ça évolue jusqu'à une certaine donnée, et on sera obligé d'en pointer ses idées. Donc, on ne peut que souhaiter à nos états.
Oui, tout à fait. En tout cas, bravo pour ce témoignage positif qui termine en beauté l'émission. Oscar Djossou au Bénin, voilà, c'est déjà la fin d'À votre avis. Un grand merci à Mireille Dubinsky qui était à la console, à Georges Léonard Sagnot qui était à la réalisation. Claire Morin-Gibourg était au micro. Rendez-vous sur Facebook où la discussion continue. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.